I'm turning today to the Gospel of Luke, chapter 4 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 1. L'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 1. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, mais après qu'ils furent passés, il eut faim. Et nous allons considérer dans cette étude unique ce matin la tentation de Christ. Et c'est un sujet tellement profond, ce passage qu'il a devant nous et ce passage parallèle dans l'évangile de Matthieu chapitre 4 et l'évangile de Marc, la tentation de Christ. Le ministère de Christ a commencé avec ce conflit le plus terrible, cette confrontation terrible entre Christ et Satan. Christ qui a été présent en tant que membre de la Trinité glorieuse, réellement Dieu, entièrement Dieu, égal au Père et à l'Esprit, également divin et éternel, un seul Dieu, et cependant d'une manière mystérieuse, trois personnes glorieuses, merveilleuses dans cette Trinité. Christ a été avec le Père et l'Esprit quand Satan a été rejeté du ciel, loin de ses privilèges, de sa gloire, du ciel et de sa position élevée à cause de son péché, de son orgueil. Et cependant, à présent, Christ, le Fils du Dieu vivant, glorieux et éternel, le Sauveur du monde, volontairement est venu dans son humiliation pour nous sauver. Et la première chose, c'est qu'il doit se soumettre volontairement à ce tourment de tentation de Satan, son adversaire. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et j'aimerais considérer ce passage dans le peu de temps que nous avons en quatre parties. Tout d'abord, cet événement qui précède. Nous allons considérer la tentation et nous allons essayer de montrer la profondeur de cette tentation. Vous lisez ce récit dans les évangiles et ceci semble être une chose superficielle et petite, mais cette confrontation était si profonde. Et nous allons essayer de souligner certains de ces aspects, la manière dont Christ a triomphé et la manière par laquelle il a fait face à chaque tentation. L'évangile de Matthieu a un autre ordre que dans l'évangile de Luc. La conclusion souvent est la manière dont Matthieu exprime son récit d'une manière générale. Son ordre est probablement l'ordre littéral de ces trois tentations. Et Luc varie un peu cet ordre. Ce n'est pas une différence énorme, mais l'ordre de Luc a probablement une base théologique pour nous enseigner, même une base géographique, parce que Luc finit avec la tentation de Jérusalem. Et ensuite, dans le récit, il va plus loin. Et il y a une raison pour cette différence dans l'ordre. Dans Matthieu, c'est l'ordre historique et dans un ordre un peu différent dans Luc pour un but différent. Il y a des études très superficielles, principalement d'une tradition catholique, qui simplifie ces tentations en gloutonnie, convoitise et orgueil. Mais ces gens ne réalisent pas la profondeur de ces tentations. Aussi, je peux dire cela, un traitement typique, catholique, superficiel de ce passage, qui est bien plus profond que ces termes-là. Ainsi, cet événement qui précède dans le chapitre 3 au verset 21, « Or comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel qui dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Ainsi, la tentation a été précédée par le baptême de Christ. Et cette authentification extraordinaire de la part de Dieu, le Père, au ciel, ceci a précédé la tentation. Ainsi, pour Christ, qui était le Fils de Dieu et qui n'a jamais été hors de communication et de communion avec le Père, cependant, il y a eu cette authentification extraordinaire de sa mission qui révèle qu'il est le Fils de Dieu. Vous pouvez voir que spirituellement, même Christ a été encouragé autant que possible. Et au verset 21, vous voyez également ces termes, « Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, il a prié tout le long de son baptême. Il était là en communion proche avec le Père. » Et ensuite, au chapitre 4, verset 1, « Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Il est rempli par l'Esprit et il est conduit par l'Esprit dans cet endroit où il sera tenté, dans un endroit désert, qui était particulièrement solitaire. À ce moment-là, il n'y avait personne qui vivait dans cet endroit. Dans Marc, chapitre 1, il nous est dit qu'il y avait des animaux sauvages là. Ainsi, ce n'était pas un endroit qui était habité par des gens. Il était seul, désespérément seul. Ce sont là les événements qui précèdent. Et au verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, vous pourriez avoir l'impression que cette tentation a commencé à la fin des 40 jours. Ce n'est pas ce que ces évangiles disent, mais à cause du récit qui commence à la fin des 40 jours, vous pourriez avoir l'impression qu'il n'y a pas eu de tentation avant la fin de ces 40 jours. Mais Luc nous donne plus d'informations. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il y avait cette tentation, cette confrontation qui a commencé et qui a duré pendant 40 jours. Et il semble que ce que nous lisons, c'est la tentation ultime, le moment ultime de cette tentation, le combat le plus intense. Et au verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là. C'était un jeûne long et très long, et un jeûne total, entier, sans nourriture, sans eau. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Mais après qu'ils furent passés, il eut faim. Et nous arrivons à ce moment où Christ a déjà fait face à cette terrible tentation, et il est épuisé, aussi épuisé et faible qu'une personne peut être. Et ceci est nécessaire pour son œuvre de rédemption. Christ doit vivre une vie parfaite pour être qualifié, mais ce n'est pas réellement le bon terme à utiliser, mais si je peux utiliser ce terme pour notre compréhension, pour être qualifié, pour être notre rédempteur parfait, il doit être sans tache, sans péché, irréprochable, sans tache. Et il est nécessaire pour Christ qu'il vive une vie parfaite en toute situation et en toute circonstance. Et ceci inclut une fatigue extrême dans son corps, parce que ceci doit être démontré, éprouvé et évident que Christ est parfait, sans péché. Il est parfait, même dans cette faiblesse extrême, sous l'assaut de Satan. Il ne pêche pas. Ainsi, il y a ce jeûne si long, et c'est la volonté divine au Père, Fils et Saint-Esprit, avant l'incarnation, ont décidé que ceci sera l'expérience nécessaire de Christ dans cette faiblesse extrême. Il doit se tenir ferme face à toutes ces tentations. Et ainsi, il est écrit qu'il eut faim. Et ce sont là les événements qui précèdent cette tentation ultime. Ainsi, vous voyez que ces tentations sont venues pour Christ Et nous pouvons souligner cela, et ces tentations peuvent venir pour nous également en toutes circonstances. Il est là, baptisé, authentifié par Dieu le Père d'une manière remarquable, rempli de l'Esprit. Il était sans péché, plein de joie et de paix pour lui-même. Il est aussi plein de la puissance du Saint-Esprit. Certaines personnes peut-être peuvent dire qu'il est sur une pente ascendante spirituellement, tout est en sa faveur. Et cependant, la tentation arrive et cet assaut du diable est de même pour nous. Vous pouvez être dans votre moment le meilleur avec le Seigneur, utilisé par lui en priant et en étant encouragé, en voyant des choses extraordinaires qui se passent. Et dans votre étude de la parole de Dieu, vous lisez des choses merveilleuses, vous entendez des choses merveilleuses, et cependant, vous pouvez être susceptible à des tentations terribles dans ces moments-là. Ou vous pouvez être épuisé, fatigué comme Christ après ce jeûne. Cette situation représente presque toute situation. Mais faites attention, chers amis, nous ne pensons pas à nous-mêmes ce matin, mais à Christ. Mais cette tentation peut venir dans toutes sortes de circonstances, soudainement. Et je commence avec la première de ces grandes tentations. Souvent les gens observent que Christ, parce qu'il était parfait, ne pouvait pas connaître la tentation qui vient de l'intérieur. Ainsi, Satan est là pour l'attaquer de l'extérieur, avec cette férocité la plus grande possible. Et la première des tentations, verset 3, alors le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. » La première des tentations, cette faim intense et cette faiblesse intense, ce besoin de Christ, et le diable arrive là avec ce qui semble être une chose raisonnable, une tentation raisonnable. Commande à cette pierre qu'elle devienne du pain, de la nourriture, pour que tu puisses manger. C'est un miracle privé. Si nous comprenons l'ordre de l'Écriture, Christ n'avait encore fait aucun miracle. Mais peut-être que Satan dit, fais ce premier miracle, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ceci est raisonnable et nécessaire. Mais ceci était en dehors du plan du salut, parce qu'il devait trouver son réconfort uniquement en Dieu, dans la situation la plus difficile. Il est là, dans un corps humain faible. Il sait ce que c'est que de mourir de faim, que d'avoir faim. Mais il ne doit pas utiliser sa puissance pour lui-même. Il doit représenter l'homme pécheur. Il doit vivre une vie parfaite pour mériter le ciel pour tous ses enfants. Et personne ne doit être capable de dire « Oh, c'était différent pour Christ » parce que quand il avait de grands besoins, quand il était à l'extrémité physiquement, quand il était épuisé ou dans la souffrance, il pouvait simplement puiser dans sa puissance divine, dans sa nature divine et produire du pain à partir de pierres. Il n'avait pas besoin de vivre comme nous vivons, sous la malédiction du péché dans ce monde qui a chuté loin de Dieu. Il n'avait pas besoin de connaître cette souffrance, cette détresse. Il pouvait simplement se guérir lui-même, prendre soin de lui-même. Vous voyez la subtilité de cette première tentation. Oh, tu n'as pas besoin d'avoir faim. Oh, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Tu n'as pas besoin d'avoir toute cette souffrance. Tu n'as pas besoin d'avoir une attitude juste, parfaite, qui se tourne vers Dieu en toutes choses et qui est plein de reconnaissance, même dans des situations difficiles, quand tu as faim. Mais tu peux t'excuser de toute cette expérience difficile et tu peux utiliser de la mauvaise manière cette puissance divine pour toi-même, de manière à ce que tu ne vis jamais réellement avec cette fragilité humaine, avec cette faiblesse humaine. Vous voyez la subtilité de cette tentation qui semble être raisonnable au premier abord, mais qui est terrible et qui mettrait en pièces tout le plan du salut, parce que Christ ainsi ne vivrait jamais une vie parfaite sous toutes circonstances. et il aurait cette vie plus facile pour lui-même. Mais c'est là un principe extraordinaire qui est en jeu ici. Commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, soulignez avant que je continue, je dois expliquer cela. Le « si » du verset 3, le diable lui dit « si tu es le Fils de Dieu ». Et ce « si » suggérerait à notre esprit, oh la tentation, c'est une tentation qui doute que tu es le Fils de Dieu. « Si tu es le Fils de Dieu ». Mais ce « si » ne signifie pas cela ici. Ce « si » est plus un « comme » ou « parce que tu es le Fils de Dieu ». Comme si le diable lui disait « parce que tu es le Fils de Dieu, pourquoi est-ce que tu ne commanderais pas à cette pierre de devenir du pain? Pourquoi continuer à souffrir? Pourquoi continuer à être humilié? Tu n'as pas besoin de passer par toute cette humiliation. Tu peux être là sans souffrance, sans humiliation et abandonner cette mission de la rédemption. Si tu es le Fils de Dieu ou parce que tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ce n'est pas une tentation qui doute sa divinité, c'est une tentation pour prendre soin de lui-même et pour mettre de côté toutes les rigueurs et la souffrance du plan du salut dans les circonstances les plus difficiles. Au verset 4, et Jésus lui répondit, en citant l'Écriture, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » C'est une telle barrière qui est là. Nous ne pouvons pas réaliser la pression intense qui était là sur Christ dans sa faiblesse. Mais jamais il n'aurait cédé à la tentation. Non, jamais, parce que non seulement il est un homme parfait, mais il est Dieu. Il ne peut jamais échouer, il ne peut jamais abandonner cette mission du salut. Il ne peut pas pécher. Il partage notre faiblesse, mais il ne partage pas notre nature de péché. Il est en toute chose comme nous sommes et cependant sans péché. Ainsi, il a ses émotions profondes. Il y a quelques années, peut-être il y a 10 ans, j'ai parlé de la tentation de Christ et j'ai utilisé une illustration. Certaines personnes m'ont critiqué pour cela dans un bon esprit et d'autres personnes ont été aidées par cette illustration. Ainsi, je vais réessayer. Il ne pouvait pas pécher, il ne pouvait pas chuter, tomber. C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale à Londres, quand il y avait ces bombardements, il y avait ces abris qui étaient là en briques et il y avait ces murs très épais. Et l'idée, c'était que ces abris étaient résistants aux bombes. Malheureusement, ils n'étaient pas suffisamment solides. Et les gens étaient là, ils se mettaient dans ces endroits, beaucoup de gens. Et ce bruit à l'intérieur, ce bruit autour de cet abri, de tout ce qui se passait, de ces explosions autour, cet abri était terrifiant. Peut-être que vous pensez que vous n'allez pas être touché, blessé, mais vous étiez là, au cœur même de la bataille, malgré tout. Et c'était comme Christ. Il ne pouvait pas tomber, il ne pouvait pas chuter et pécher. Et cependant, il a expérimenté la tentation et toute sa puissance, comme nous pouvons l'expérimenter également. C'est là mon illustration. Isaac Watts l'exprime bien mieux dans son cantique. Touché par cette sympathie dans son cœur, il connaît notre forme faible. Il connaît ce que c'est qu'une tentation terrible parce qu'il a ressenti la même chose. Et effectivement, il a ressenti cela, il a dû ressentir ces choses pour nous. Il y a un nombre de raisons pour expliquer la tentation de Christ. Nous voyons qu'il ne pêche pas, il va adhérer au dessein divin, au plan divin, et son amour pour les pécheurs est si grand que rien ne va le laisser abandonner cette mission de la rédemption. Il n'a jamais changé dans son amour pour les perdus. Il a expérimenté notre tentation également. Ainsi, il nous comprend et il a cet amour pour nous. Quand nous venons à lui, nous le savons. Et il nous montre un exemple de comment faire face à la tentation. Il y répond avec les lois de Dieu, avec les paroles de l'Écriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Cette obéissance qui est mieux que le réconfort terrestre. Et il cite Deutéronome chapitre 8. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Quand les choses vont de travers, quand des problèmes arrivent et des difficultés dans la vie, pour un chrétien, le bonheur, la joie est dans le Seigneur, dans cette contemplation de Christ, dans son adoration, dans son service, dans cette obéissance à Christ. Notre satisfaction est en Dieu seul, qu'elle ne soit en rien d'autre. Et j'en arrive à la deuxième tentation au verset 5, dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Et voici cette tentation. « Ensuite, le diable le mena sur une haute montagne, une montagne très haute dans Matthieu, et lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. » De quelle manière il a fait cela, on ne nous dit pas. Certaines personnes aiment penser que c'était littéral et semble être écrit ainsi dans l'Écriture que d'une certaine manière que nous ne connaissons pas, il a été littéralement pris et mis sur une haute montagne. Dans notre tradition réformée, les commentateurs semblent penser que c'est une sorte de vision, que dans une vision que le diable a été permis de développer dans le Sauveur lui-même, et le Sauveur s'est soumis à cela volontairement, une sorte de vision où le diable lui montre d'une grande montagne tous les royaumes du monde. Bien sûr, si cette vue que Christ a eue de tous les royaumes du monde, durant toute l'histoire probablement, cette vision de Christ était bien plus claire que toute vision que le diable pouvait avoir, mais d'une certaine manière, le diable lui a montré toute la gloire de tous ces royaumes du monde en un instant, en un moment. Ceci suggère que c'était une vision et non pas une expérience littérale, mais c'est quelque chose de très réel. Et au verset 6, et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. » Cette louange, cet honneur de ces royaumes, je vais tout te donner, mais c'est là cette grande bataille de l'univers, c'est là Satan qui pour le moment le prince de la puissance de l'air, le roi de ce monde, l'architecte, l'ingénieur des ténèbres de ce monde, Satan là qui possède dans une certaine mesure le domaine de Dieu, le royaume de Dieu, il a pris les cœurs des hommes. Et peut-être vous pouvez dire que ceci lui est monté à la tête. Il semble penser dans cette tentation que ceci lui appartient pour toujours et qu'il peut faire tout ce qu'il veut et que ceci est à lui d'une manière irréversible. Dans une certaine manière, ceci lui appartient, dans une certaine manière, il règne, mais il dit « Je vais faire un pacte avec toi », il dit à Christ. « Ce plan de la rédemption n'est pas nécessaire. » Il n'est pas nécessaire que tu viennes dans ce monde pour chercher à sauver les hommes et les femmes et à me vaincre. Moi, je vais capituler devant toi. Je vais tout te céder. Tu n'as pas besoin de souffrir l'humiliation. Tu n'as pas besoin de mourir. Si Ésaïe 53, Satan aurait peut-être dû dire, est une vision réelle de ce à quoi tu vas devoir faire face, tu n'as pas besoin de faire cela. « Je vais tout te donner. Si je suis ton Dieu et si tu m'adores, dans le sens comme le Père est adoré par le Fils et le Fils est adoré par le Père, comme il y a cette reconnaissance mutuelle parce qu'ils sont un, les membres de la Trinité glorieuse sont un, de même, moi je serai parmi les dieux et je vais régner et je serai reconnu comme roi. » Si ceci se passe, alors je te donne tout. Tu peux avoir tous les royaumes du monde et la gloire de ces royaumes. Je ne sais pas combien on peut imaginer si dans cette grande intensité, cette tentation est venue sur Christ, peut-être qu'elle aurait pu, dans la nature humaine de Christ, sembler être quelque chose de raisonnable, que Christ puisse prendre le royaume, le règne de ce monde sans humiliation. Et immédiatement, il y aura la paix internationale. Il y aura ce gouvernement mondial par Christ, Dieu qui règne sur cette terre. Il y aura la joie, le bonheur, il n'y aura pas d'inégalité, il n'y aura pas de manque, de besoin, tout le monde sera heureux et toutes choses seront parfaites et parfaitement ordonnées. Et lui sera internationalement le roi parfait, le dirigeant parfait, et le monde se tournera vers lui parce qu'ils seront si fatigués de tous ces mauvais rois. Ceci semble être raisonnable, et voici le problème. Il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon, et la mort règnera encore parce qu'une génération après l'autre mourra. Il n'y aura pas de vie éternelle parce qu'il n'y aura pas de croix du calvaire et d'expiation. Il n'y aura pas de salut. Si Christ est prêt à faire cela, alors, voyez, dans cette vision, dans la réalité, là, sur cette montagne, d'une manière miraculeuse, extraordinaire, ils peuvent voir tous les royaumes du monde, peut-être dans toute l'histoire. Et Satan prend la puissance, la gloire, la domination. Et c'est là ce que le diable voit, mais quand Christ voit tous ces royaumes du monde, il voit ceux qui sont élus, qui sont ses enfants, qui resplendissent d'une lumière resplendissante. Il les voit tous là, dans l'Empire romain, dans le futur, dans l'avenir, dans ces royaumes qui vont se succéder. Et il dit, je dois mourir pour les élus, je ne peux pas me détourner du plan de la rédemption, de cette mission du salut. Je ne peux pas me mettre de côté, parce que la tentation, c'est pas d'humiliation, pas de souffrance. Le diable semble capituler, si on peut lui faire confiance. Est-ce que Christ peut faire un pacte, une alliance avec les ténèbres? Est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent œuvrer ensemble? Est-ce que le bien et le mal peuvent œuvrer ensemble? Ceci est impossible. Christ ne va pas se détourner de sa mission. Il voit les rachetés, la raison pour laquelle il est venu. Et il répond de la bonne manière à Satan, au verset 8. Mais Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » On ne peut pas faire de compromis. Le vrai et le faux ne peut pas être mis ensemble. J'hésite presque à faire ceci, mais si vous pensez à ce qui se passe de nos jours même parmi les églises, le mouvement le plus grand des églises protestantes dans le monde, ce mouvement international, veut faire ces choses de la politique aussi importante que l'évangile, en se joignant à la politique et en disant que le but de l'Église, la mission de l'Église, c'est d'éradiquer la pauvreté et la faim. C'est un peu comme ce que Satan suggérait à Christ. Ne vous concentrez pas sur la rédemption, mais je vais vous donner le Fils de Dieu comme étant un roi sur cette terre, et ce monde sera bien mieux, bien meilleur. Et beaucoup de ces gens disent qu'ils sont chrétiens de nos jours, et ils pensent que la chose la plus importante, c'est non seulement de prêcher l'évangile et le salut, mais en particulier de prêcher les bonnes œuvres et l'aide au pays pour éradiquer la pauvreté. Et Christ dit, vous ne pouvez pas avoir un monde meilleur, mais la chose la plus importante, c'est le salut des âmes perdues. Je suis venu pour souffrir, pour mourir pour les âmes perdues. Et il ne va pas se détourner de sa mission. Bien sûr, il ne pouvait pas échoué, et il ne pouvait pas tomber. Et nous, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous nous concentrons sur les choses terrestres? Je veux ceci, je veux cela, ou je ne veux pas aller au culte ce soir, deux cultes dans la même journée. Non, non, je veux regarder la télévision, allumer le monde. Et ceci va m'encourager et va me donner du réconfort. Et vous vous tournez vers le monde pour être satisfait avec ces divertissements mondains. Je suis désolée de dire ce genre de choses parce que ce que Christ a expérimenté était si profond. Mais Christ n'allait pas se laisser détourner de sa mission. Et sa réponse, c'est « Arrière de moi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Et l'Église catholique doit également regarder ce verset et faire attention avec toutes leurs images qui adorent les saints. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pas d'image, pas de saint, pas Marie. Non, toutes ces formes d'adoration sont contre l'Écriture, peu importe ce qu'ils disent. C'est là la deuxième tentation dans l'évangile de Luc. Et nous avons le temps simplement de parler de la troisième tentation au verset 9. Satan le mena aussi à Jérusalem et il le mit sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Et cette fois-ci, Satan utilise l'Écriture. Satan lui-même peut utiliser l'Écriture. L'Écriture peut être utilisée pour justifier des choses qui sont fausses et erronées et hérétiques. Bien sûr, Satan devait utiliser une citation de l'Écriture de la mauvaise manière pour que ceci soit utilisé pour son but, mais les gens font ceci de nos jours. Et je vais revenir à ceci plus tard. Si tu es le Fils de Dieu, ou parce que tu es le Fils de Dieu, ou comme tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, et c'est là une citation du psaume 91, qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi pour te garder, et qu'ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre. Satan utilise le psaume 91, et ceci est intéressant. Il semble penser que ces versets dans le psaume 91 sont des versets messianiques. Ce sont des promesses qui s'appliquent uniquement au Sauveur. Et en cela, il a raison. Ce sont des promesses qui s'appliquent au Sauveur. Ces promesses qui s'appliquent pour nous également, mais pas littéralement, d'une manière plus générale et spirituelle. Mais il a laissé une partie essentielle de cette promesse de côté. Tu as pris le Très-Haut pour ton asile, pour ton refuge. Alors, il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi. Satan n'a pas cité la condition. Si tu vis réellement pour le Seigneur, si tu es dédié, consacré au Seigneur, et si tu fais sa volonté, ce qu'il t'a demandé de faire, si tu le sers, alors il te gardera. Il a laissé de côté cette condition. Tu as pris le Très-Haut pour ton asile. Et le psaume 91, comme vous vous souvenez, commence avec ces paroles extraordinaires. « Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est là la condition. Est-ce que Christ sera dans l'ombre du Très-Haut, en reposant à l'ombre du Tout-Puissant, dans le secret du Très-Haut, là où les grandes décisions de Dieu sont faites, sont prises? Est-ce que Christ marche en harmonie avec le Père, s'il se jette d'en haut? Bien sûr que non, ainsi cette promesse ne s'appliquerait pas pour lui. Cette promesse qui dit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, il y a cette condition qui va avec cette promesse. Et de même pour nous, c'est là l'idée de Satan, cette même idée. Ne passe pas par cette humiliation, ne passe pas par la croix du calvaire, ne passe pas par toutes ces années où tu enseigneras patiemment tes disciples pendant 3 ans, avec tout ce mépris, cette hostilité de la foule, ne passe pas par ces moments où tu seras fouetté, méprisé et la croix du calvaire et Gethsémané ne passe pas par tout cela, mais commence ton ministère d'une autre manière, dans un style différent. Va au temple. Certaines personnes disent que c'était le nord-est du temple qui est là au-dessus de cette vallée de Kidron. Et ce serait une chute assez considérable. D'autres personnes disent non, c'était simplement le porche à l'avant du temple où il allait tomber dans cette cour publique, en dehors du sanctuaire lui-même, qui était toujours plein d'une grande foule. Et ce serait un spectacle public de Jésus-Christ de Nazareth qui se jetait là devant toute cette foule et devant leurs yeux d'une manière extraordinaire. Il allait être délivré, délivré par ses anges. Merveilleux, il serait un sauveur héros. Et il n'aurait pas besoin de passer par une situation difficile. Il serait l'objet de cette adoration, de ce respect, de cet honneur de la foule. Beaucoup de gens n'ont pas cru dans ces miracles, mais de le voir là au début, authentifié d'une manière miraculeuse et merveilleuse, alors il aurait pu régner directement. Pas besoin de la croix du calvaire, dit Satan. Par cette démonstration extraordinaire, tu seras un roi, un héros. Mais de faire cela serait à nouveau d'abandonner l'œuvre de la rédemption. Mais c'est là ce qu'il est appelé à faire, c'est là ce que lui, avec le Père et le Saint-Esprit, ont déterminé, ont décidé avant la fondation même du monde, qu'il allait connaître cette souffrance, qu'il allait être méprisé et qu'il sera le Fils de Dieu parfait, qui va mériter le ciel par sa justice parfaite malgré toutes ses situations et ses souffrances, et qu'il sera rejeté, un homme de souffrance, et qu'il aille à la croix du calvaire. Non, le roi héros, ceci n'est pas dans ce plan de la rédemption. Ceci serait abandonner le plan de la rédemption. Sans souffrance, dit Satan. Il va essayer de toute manière possible d'éviter la croix du calvaire, mais Christ, dans sa perfection, allait tout faire pour garder parfaitement ce plan du salut. Et oui, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et ceci vient de Meriba, quand le peuple d'Israël était là dans le désert, qui n'avait pas d'eau, qu'ils se sont rebellés contre Moïse, qu'ils l'ont presque lapidé, qu'ils se sont plaints contre Dieu dans leur incrédulité et qu'ils voulaient de l'eau là, visible devant eux. Ils ne pouvaient pas se confier en Dieu pour qu'il leur donne l'eau au fur et à mesure comme il l'avait promis. Ainsi, ils l'ont tenté en se rebellant. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ceci serait une chose terrible que de faire cela, dit Christ. » Que de forcer la main de Dieu, mon Père céleste, de forcer sa main par ses anges pour me garder de tomber, d'être un roi, un héros, un grand héros. Ceci serait tenter Dieu de m'assister en dehors du plan du salut de la rédemption. Ainsi, il a résisté à la tentation. Cette application simple pour nous, parce que je dois en venir à ma conclusion, est-ce que vous tentez Dieu? Il y a toutes sortes de manières par lesquelles nous pouvons tenter Dieu. Oh, je m'attends à ce que Dieu me bénisse, peu importe ce que je fais, c'est tenter Dieu. Je suis un chrétien, je crois en Dieu, en Christ, mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé, mais je ne veux pas le servir, je ne veux pas l'adorer en toute occasion, je ne veux pas vivre comme je le dois, je ne veux pas laisser de côté, abandonner cette musique mondaine, je ne veux pas faire ceci, cela, mais ô Dieu, bénis-moi, je suis un chrétien, tu dois me bénir et me garder. Tu ne vas pas garder ta promesse si tu ne me gardes pas jusqu'à l'éternité et jusqu'au ciel, ceci c'est tenter Dieu. Je vais errer du chemin et faire les choses de ma propre manière et avoir toutes ces choses mondaines. Non, quand ces choses ont été offertes à Christ, un roi héros. Non, Satan n'avait pas ces choses à offrir. Mais ceci était impensable, qu'il tente Dieu alors qu'il était fils de Dieu dans sa faiblesse humaine, de prendre cette puissance divine pour lui-même et d'errer du chemin. Non, ceci était impossible. De même pour nous, mais nous pensons au Sauveur ce matin, alors que je conclus, son grand amour qui l'a amené à cette expérience terrible de ses grandes tentations, de cet assaut du diable, et son amour pour ses enfants, son obéissance, sa perfection est incomparable et parfaite et ferme tout le long de cette expérience. Quel exemple pour nous, chers amis !